Je suis un peu dans la confusion. J'ai tellement de choses à partager et maintenant on est dans la dernière ligne droite. Mais je voudrais partager avec vous deux camées, deux petits tableaux de deux familles. Une famille chrétienne spirituelle et biblique, une famille chrétienne mondaine. Je dis chrétienne, mais ce sont des personnages de l'Ancien Testament. Vous aurez peut-être deviné, il s'agit d'Abraham et de Lot. On va regarder les textes qui en parlent en Genèse, chapitre 13. Ça permet de voir ce qui fait qu'une famille spirituelle est vraiment spirituelle et ce qui fait qu'une famille mondaine est mondaine. Quelquefois, on voit des gens qui paraissent très spirituels et on voit leurs enfants qui sont vraiment mondains. Ils ont dit, c'est dommage qu'ils aient eu des enfants pareils. Vraiment, c'est pas possible. D'où est-ce qu'ils sortent ces enfants? Parce que les parents sont tellement spirituels. Le sont-ils vraiment? Alors, en Genèse 13, 10 à 13, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, on voit dans ce premier livre de la Bible l'ami de Dieu, le père des croyants, c'est Abraham. Le fondateur de la nation d'Israël. On est bien tous d'accord. On découvre donc un homme qui, malgré ses défauts, marche avec Dieu. Il avait quand même des défauts, hein. Cette question à sa femme, fais comme si tu étais ma sœur, ça, je trouve quand même un gros défaut, hein. Il manque singulièrement de l'esprit protecteur. Mais bon, on rencontre également son neveu Lot. Et quand on pense à une famille croyante, mais qui est ratée, on pense invariablement à Lot et à sa famille. On va donc voir ce qu'étaient ces familles, quelles étaient leurs différences et pourquoi leur destin était tellement différent l'une de l'autre. Alors, quand on voit Abraham dans le chapitre 12, on ne lira pas le texte, mais dans les 8 premiers versets, on voit cet Abraham qui reçoit un appel directement de la part de Dieu. Il obéit à Dieu. Et il maintient une obéissance et un culte à l'Éternel. C'est la première chose qui nous frappe. Verset 7, par exemple. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes et en Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et en s'avançant vers le midi. Je suppose que si on devait suivre les traces d'Abraham, on prendrait les jumelles et on chercherait à l'horizon, est-ce qu'il y a un autre autel quelque part, hein? Si on trouve un autre autel, c'est qu'il a craché là quelque temps avant d'aller plus loin. Donc, c'est un homme qui avait l'habitude, tout en voyageant, de dresser des autels et d'adorer l'Éternel. Parfois, on dit, mais moi, je vais être stabilisé, sédentaire, sinon, je ne pourrai pas vraiment servir Dieu. Bon, l'homme qui est nomade toute sa vie, eh bien, où qu'il aille, il transporte son culte avec lui. Maintenant, on va regarder 2 Pierre, chapitre 2. Versets 6 à 9. Un passage surprenant sur Lot, et heureusement que nous l'avons. Hein. Si on n'avait pas ce texte, Lot, vraiment, on n'aurait aucun respect pour lui. Si on a une pensée quand même sympathique pour Lot, c'est à cause de ce texte. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Si vous venez un jour au Seigneur, « Seigneur, je t'aime, pourquoi tu me fais passer par cette épreuve ?» Et le Seigneur dit, « Bon, j'ai délivré Lot, je peux aussi te délivrer toi. » Vous allez dire, « Ah ben attends, mais ne mets pas Lot dans le même panier avec moi, tout de même. » C'est ce que fait l'apôtre Pierre. Il dit, « Lot était un homme juste, et Dieu l'a délivré, et il a condamné les sodomites à la destruction. Si vous êtes un juste, Dieu peut aussi vous délivrer. » Alors, Lot n'a pas entendu la voix de l'Éternel comme l'a entendu Abraham. Du moins, l'Écriture ne nous rapporte pas que Dieu soit apparu à Lot. Mais, il a dû recevoir l'enseignement et voir l'exemple d'Abraham. Il dit que même son neveu, il a voyagé avec lui, il a vu Abraham dresser des autels, il a quand même vu l'exemple d'Abraham devant lui. Lot est appelé un juste. Et la Bible dit qu'il n'aimait pas voir le péché qui l'entourait. Mieux que ça, Lot est peut-être plus juste que vous et moi quelquefois parce qu'il ne s'est jamais habitué au péché. Vous pensez vivre à Sodome pendant peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, de voir l'homosexualité tout autour de vous, et on sait que c'était public et affiché là, dans ces villes, c'était des grands pécheurs. Vous savez, à force de voir le péché, on commence à s'habituer. Hein? Et Lot a ceci quand même d'admirable, c'est qu'il ça l'a toujours gêné. Il ne s'est jamais habitué au péché. Et Dieu l'appelle un homme juste. Mais, là où Lot a failli, tout en exécrant le péché, lui-même, il vivait dans ce monde d'iniquité et il n'a rien fait pour en préserver sa famille. C'est ça qui nous choque. Il a dû se dire, moi, je ne supporte pas cette immoralité, mais je suis bien content de vivre dans cette ville. Donc, je vais faire avec. Il a dû raisonner en termes uniquement personnels. Mais il semblerait qu'il n'avait pas l'idée à quoi j'expose ma femme et mes enfants. Moi, j'ai beau être juste, j'ai beau ne pas m'habituer, mais si mes enfants s'habituaient. Je raconte une petite histoire et je ne vous dis pas que c'est une chose pour vous à faire. Mon gendre, il buvait un petit peu de vin, de temps à autre, quand on invitait les gens, et puis lui et Esther, bon, finissait la bouteille, mais il fallait 2 mois pour la finir, toutes les semaines, un quart de verre, enfin rien quoi. Donc il fallait longtemps pour le finir, donc ils en sortaient très peu, ils buvaient très peu, mais bon. Et un jour, il était là, avec cette bouteille qui avait traîné 3 mois dans le frigo, il dit quand même, il faut la finir. Est-ce que tu veux un petit rasade? Moi je prends un peu. Et buvait comme ça, à la table de la cuisine, et ma petite fille, l'aînée, elle arrive, elle pointe le verre de son papa, « Foif, papa, foif !» Il dit, « Oui, oui, ben je vais te chercher un verre d'eau. »« Non, foif comme papa !» C'est lui qui me racontait ça. Il a réfléchi. Et quelques temps après, il a dit à Esther, « Est-ce que ça te gênerait beaucoup si on décidait de ne plus boire de vin ?» Non, non, tu sais, mes parents, bon, mais moi j'aime bien hein, quand même, mais non, mais oui, parce que tu vois, je me suis mis à penser, mais imagine qu'un jour, mais mon père en a bu, moi je bois, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire le vin, c'est pas pour ça que je dis, simplement, il a réfléchi sur les faits que qu'il pourrait avoir son exemple sur celui de ses enfants. Tout ce que je veux dire. Il a réfléchi au moins. Je pense qu'ils ont pris cette décision, mais je ne peux pas vous le certifier. Et il semblerait que Lot n'ait jamais réfléchi dans ce sens-là. Ou s'il a réfléchi, il n'en a jamais rien fait. Il est resté là, bêtement, dans cette ville de Sodome. Il y a peut-être des choses qui l'intéressaient là, ou sa famille, mais il ne s'est pas posé la question en tant qu'homme responsable. Quel effet aura cette ville sur ma famille? Ça, c'est les deux chefs de famille. Alors, leur femme. Sarah, une femme admirable. Plus je lis la Bible, plus j'admire cette femme Sarah. Il y a des gens qui la ridiculisent parce que quand à 90 ans, Dieu lui disait qu'elle allait avoir l'enfant dans un an, elle a osé rigoler. Puis en plus, elle a menti. Moi, je trouve ça un péché, c'est pas très grave ce péché, par rapport à certains que nous commettons. Qui d'ici, quelle femme ici à 90 ans ne rigolerait pas un petit coup si Dieu lui disait l'année prochaine, vous aurez un enfant, et que ça fait 90 ans qu'on est stérile. C'est à rigoler quand même, je veux dire. Et le fait qu'elle n'a pas voulu l'avouer, on la comprend quand même. On ne va pas dire au Seigneur qu'on a ri. Mais quand Isaac est né, elle a ri et elle a nommé Isaac rire. Isaac, c'est le rire, c'est le rire de joie. On la critique aussi parce qu'elle a donné sa domestique à Abraham. En disant, prends ma servante, c'est par elle que j'aurai un enfant. Alors, ce qu'elle a, elle a des qualités. Elle obéit à son mari, même lorsqu'il fait une requête qui nous paraît égoïste, de se faire passer pour sa sœur. Et vous savez, chaque fois, deux fois c'est arrivé, elle a fini dans le harem du roi du pays. Parce que c'était une beauté, cette Sarah. On n'avait plus 20 ans non plus. Hein? Mais apparemment, il y a des femmes, bon, la beauté, on l'a pour la vie. Hein? Et donc, les hommes étaient les rois. C'était le roi, bien sûr, qui méritait une si belle femme. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle devait croire? Qu'est-ce qu'elle devait ressentir quand elle était en train de se parfumer avec des eunuques autour d'elle, ou comme ça, se préparer à monter dans le lit de Pharaon ou d'Élimélec, Abimélec, pensant, mon époux est là-bas, et il ne dit rien? Je veux dire, si j'étais lui, je serais là à genoux devant le roi, disant, oh, excusez-moi, je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure, c'est ma femme, je suis prêt à me sacrifier pour elle, mais surtout, etc. Pas du tout. Hein. Elle obéit à son mari quand même. Et quand on lit en Pierre 3, on va y arriver, mais elle obéit à son mari, pas parce qu'elle a confiance dans son mari, attention. Elle obéit à son mari parce qu'elle a confiance dans le Dieu de son mari. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. D'ailleurs, c'est la seule manière de rebâtir la confiance quand on l'a perdue avec quelqu'un. Je n'ai pas confiance en toi, franchement. Mais j'ai confiance que tu veux sincèrement faire la volonté de Dieu. Donc j'ai confiance que Dieu peut te diriger. Là, j'ai confiance. Et peut-être avec le temps, ma confiance renaîtra. Si vous êtes convaincu que quelqu'un ne veut pas faire la volonté de Dieu, ben c'est différent. C'est différent. Sarah, mettons-nous à sa place. Elle avait confiance que Dieu allait la garder, puisque Dieu, avec elle, Abraham et Sarah allaient devenir les parents d'une grande multitude. Dieu l'avait déjà fait cette promesse. Donc, il ne pouvait pas permettre qu'elle devienne effectivement une concubine d'un roi étranger. Quand bien même elle se préparait à monter dans son lit, elle savait que Dieu n'allait pas le permettre puisqu'il avait déjà fait une promesse dans un autre sens. C'est donc dans le Dieu de son mari qu'elle avait confiance. Alors, c'est sûr qu'elle encourage Abraham à prendre Agar pour accomplir la promesse faite par Dieu en vue d'une postérité. C'est vrai. On dit, ouais, elle a manqué de foi. Avez-vous lu un peu la Bible avant? Dieu dit chaque fois à Abraham, c'est de toi que naîtra une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Il n'a jamais précisé que ce serait par Sarah. Je fais l'avocat du diable là. Bien sûr comme il avait donné Sarah à Abraham, et comme il n'avait pas dit qu'il fallait qu'il prenne une autre femme pour avoir ce bébé, Abraham et Sarah auraient dû demander conseil à l'Éternel. Est-ce que c'est avec Sarah ou un autre? Avec une autre. Et le Seigneur aurait peut-être répondu. Il n'aurait pas répondu, mais il n'avait pas à bouger tant que Dieu ne leur avait pas dit comment avoir cette postérité. On le comprend. Mais ne la blâmons pas trop. Regardez ce que dit Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. J'espère que j'ai la bonne. Non, c'est Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Alors, verset 14. Bon, Dieu dit, je ne peux plus agréer des sacrifices de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Ça veut dire, nul n'a jamais été infidèle à la femme de sa jeunesse avec un peu de bon sens. Un seul l'a fait. Ça veut dire, un homme qui a été infidèle à la femme de sa jeunesse qui avait un peu de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. De qui parle-t-il? Un seul l'a fait, et pourquoi? Il parle d'Abraham. Abraham l'a fait, mais pourquoi il l'a fait? Parce que Dieu lui avait promis une postérité. Il n'a pas réfléchi qu'il s'est dit, et Sarah s'est dit, ça fait longtemps qu'on attend, peut-être justement faut-il, n'est-ce pas, te donner une femme qui sera capable d'avoir un enfant, puisque de toi doit naître une nombreuse postérité. Les deux ont manqué de foi, peut-être manqué un peu d'information. Mais bon, quand on n'est pas sûr, ne bougeons pas. Attendons que Dieu nous montre la manière. Ça, c'est très important. Alors, en Genèse 18, quand la promesse vient pour Isaac, elle croit la promesse. Et j'aimerais que vous regardiez Hébreux 11, 11. Parce que, encore une, je le disais tout à l'heure, ne regardez pas toujours la première réaction. Hein? La première réaction peut être mauvaise, mais c'est après réflexion, qu'on peut arriver à de meilleurs sentiments. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors même si elle a ri là, quand ça a été annoncé, quelques temps après, pas longtemps après, parce qu'il faut 9 mois pour mettre un enfant au monde, peu de temps après, en réfléchissant, elle a dit, Dieu peut le faire. Dieu peut me faire avoir un enfant. Moi, je crois ça. Et la Bible dit qu'elle a été rendue capable d'avoir un enfant parce qu'elle a cru Dieu. Ce n'est même pas parce qu'Abraham aussi a cru Dieu. Mais Sarah avait une démarche de foi. Mais mettez-vous dans sa peau, 90 ans. Vous êtes stérile depuis que vous êtes né. Et vous allez avoir un enfant? Et vous savez que biologiquement, c'est impossible. Et vous croyez Dieu. Sa foi est au moins égale à celle d'Abraham. Maintenant, on vient à 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Alors, ce texte est écrit essentiellement à des femmes dont les maris sont inconvertis. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est une épouse fidèle et près de Dieu avec un homme qui n'obéit pas à la parole. On dit toujours, c'est un inconverti. Pas forcément. C'est un homme qui, dans un domaine de sa vie, n'obéit pas à la parole. J'aimerais qu'il change. Oui, mais comment? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il change? Et donc, Dieu prend Sarah en exemple. Vous dites, mais oui, mais Sarah avait un mari chrétien. Je veux dire, Abraham, c'est le père des croyants. C'est l'homme de foi. Oui, mais il n'a pas toujours manifesté cette foi. Hein? Dans ce cas où il demande à sa femme de se passer pour sa sœur, c'est quand même un manque de foi. Et on vient de parler de tous les troubles que ça a pu causer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé son mari son maître, c'est-à-dire elle a reconnu l'autorité de son mari, elle lui a obéi, et ici seulement, nous avons un aperçu de ce qui se passait dans son cœur. Qu'est-ce qui se passait dans le cœur de cette femme? Eh bien, elle avait un esprit doux et paisible. Et verset 5, elle ne se laissait troubler par aucune crainte. Alors, pour une femme, quand son mari ne marche pas droit, etc., et elle voit qu'il commence à dévier, elle commence à craindre, craindre énormément. Et quelquefois, elle va faire tout ce qu'elle peut pour redresser la barre, pour dire à son mari, mais non, mais c'est pas comme ça, mais tu ne vois pas, mais etc. Imaginez cette discussion sous la tente. Mais Abraham, ne me demande pas de te faire passer pour ta sœur. Tu sais très bien que je suis ta femme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais et si quelqu'un me voit? Et si quelqu'un me prend? Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas venir me défendre? Oh, ben, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Mais moi, je veux parler dans là-bas. Je préfère mourir de faim ici que d'être finir dans le lit d'un autre homme. Et toi, ça ne te fait rien? Ah non, non, moi, dans ces conditions, je refuse d'aller en Égypte. Qui lui aurait donné tort? Pas moi. Et ce n'est pourtant pas ce qu'elle fait. C'est quand même étonnant, cette femme. Elle a un esprit doux et paisible. Elle ne se laisse troubler par aucune crainte. Des craintes, elle a dû en avoir, mais elle ne se laisse pas troubler par ses craintes. Ça, c'est vraiment différent de la plupart des femmes que je connais. Elle dit, mais mon mari est un appelé de Dieu. Il me demande de faire ça. Moi, vraiment, si c'était moi, je le ferais différemment. Mais Dieu m'a demandé de lui obéir. Eh bien, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Le problème entre Dieu et lui. Ce n'est pas un problème entre moi et lui. Moi, j'ai mon rôle à jouer et lui, il répondra devant Dieu. Et ça me suffit. Vous dites, moi, enfin bon, c'est pas... Ben oui, mais c'est ce que ça dit. Quel est l'avantage d'adopter ce point de vue? D'abord, elle adopte le point de vue biblique. Mon mari est le chef de la famille. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une opinion, mais ça veut dire que je ne suis pas spécialement appelé à orienter mon mari. Je suis appelé à l'accompagner et à l'aider de toutes les manières que je le peux. Et donc, apparemment, elle n'était pas troublée. Ça nous paraît tout à fait étonnant. On veut bien connaître des femmes comme ça. Hein? Mais cette paix ne vient pas de ce qu'elle était laissée aller. Ce n'était pas la femme. Comme tu veux, mon mari. Ce n'était pas la paix de quelqu'un qui ne comprend rien. C'était la paix de quelqu'un qui connaissait l'Éternel. Abraham va avoir la même pensée et la même paix quand il va lever le couteau pour sacrifier son fils. Vous dites, ce n'est pas possible, si. La Bible dit, en Hébreu 11, qu'Abraham était convaincu que s'il tuait son fils, Dieu le ressusciterait, peut-être sur l'autel, peut-être 3 jours plus tard, mais Dieu le ressusciterait parce que c'était par Isaac que devait venir sa postérité. Alors, s'il devait tuer Isaac avec un couteau, Dieu serait obligé de le ressusciter. Ça, c'est croire Dieu. Ça, c'est vraiment croire Dieu. Et donc, Abraham et Sarah avaient cette foi. Abraham avait cette foi en Dieu et Sarah avait foi dans le Dieu de son mari. Ce qui lui a permis d'avoir ses attitudes. Encore une fois, c'est intéressant. Cette femme était d'une beauté exceptionnelle. Mais elle ne l'a pas mise en évidence par tout un tas de décorations, etc. Vous avez vu comment elle s'habillait. Ainsi se paraient les saintes femmes comme Sarah. Donc, ce qu'il dit par rapport à l'habillement des femmes, versets 2 et 3 et 4, c'était la manière dont s'habillait Sarah. Alors, il y a des gens qui disent, il ne faut pas porter de boucle d'oreille, il ne faut pas porter ceci, etc. Regardez bien. Il dit verset 3, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, etc., mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. » Ce n'est pas forcément ce qu'on porte, c'est la manière que l'on regarde ce que l'on porte. Une jeune femme peut mettre un collier autour de son cou et des boucles d'oreilles dans ses oreilles. Elle peut le faire, parce que ça fait bien, elle est contente, elle trouve que c'est bien, elle trouve que c'est joli. Ou elle peut le faire, je vais mettre ces boucles là, je crois que vraiment, mes copines d'abord, elles vont voir ça, elles vont dire, waouh, ça c'est super. Et puis ce collier, tout le monde va me demander où je l'ai eu, si c'est un or ou si c'est des vraies perles. Et là, je vais encore mettre ce bracelet, là, 18 carats en or, c'est mon père qui me l'a offert, c'est mon, etc. Et là, ah là, je crois que là, quand je passe la porte, et avec la coiffure que je me suis faite hier soir, ça va être une bombe. C'est ce que ça veut dire, là. Si vous allez vous parer, cherchez surtout à vous parer d'une attitude intérieure. Et l'attitude, la mise extérieure, peut-être ce que vous trouverez bien, mais ce n'est pas pour faire une impression. Ne cherchez pas à produire une impression par votre mise. C'est ça l'idée. Alors, il y a des femmes qui ne portent jamais de boucle d'oreille, qui portent le chignon évangélique. C'est très bien. Très bien. Mais qui sont hautaines et supérieures parce qu'elles s'habillent comme il faut, etc., et que telles sœurs sont très charnelles parce qu'elles portent... Et là, on fait un sujet d'orgueil. Alors là, elle fait aussi une apparence extérieure et elle est très consciente de son apparence extérieure, que c'est vraiment biblique et les femmes qui ne s'habillent pas comme ça ne sont pas bibliques. Et le problème n'est pas là. La question pour cette femme, comme pour les autres, c'est, attention, quelle attitude portez-vous aujourd'hui? En tous les cas, elle accompagne son mari dans sa vie spirituelle, elle participe avec lui dans ses démarches, elle l'accompagne, quoi. Ça, c'est Sarah, la femme de Lot. Eh bien, elle semble avoir été comme lui, c'est-à-dire contente de vivre à Sodome. Peut-être on l'imagine toujours un peu moins spirituel que Lot, puisqu'on n'a pas un texte comme quoi elle tourmentait son âme continuellement. On a tendance à la croire très mondaine, c'est possible. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle n'était pas fichue d'obéir à Dieu, parce que quand il disait ne regardez pas en arrière, elle n'a pas pu s'empêcher de regarder en arrière et elle est devenue une statue de sel. On sait ça. Mais elle devait être mondaine, comme Lot. C'est-à-dire, Lot était négligent. Elle était soit négligente, soit mondaine, soit les deux. Nous ne savons pas. Elle vit en Sodome. Elle n'éduque pas davantage ses filles. y a quatre filles dans le foyer. Ni Abraham, ni Lot, ni sa femme n'ont vraiment éduqué ses enfants dans la crainte de Dieu. Il est évident que leur gendre, les deux gendres, étaient de vrais sodomites qui se moquaient royalement de Dieu et qui ont rigolé de Lot. Lot n'avait aucune crédibilité spirituelle auprès de ses gendres. Alors, l'atmosphère de la famille est établie par les parents. L'atmosphère de votre famille sera établie par vous, papa et maman. C'est maman qui est un peu, qui met un peu l'ambiance dans la famille. Hein? Chez Abraham et Saraï, il y avait un contact avec le monde. Ils étaient en contact avec le monde. Ils sont descendus en Égypte vivre. Ils sont allés à Guérar vivre. Mais il n'y avait pas un rapprochement affectif avec le monde. Le système païen, Abraham et Lot tenaient leur distance, enfin plutôt Abraham et Sarah tenaient leur distance. Ils vivaient dans le pays, mais ils n'étaient pas dans la mentalité du pays. Chez Lot et sa femme, par contre, il y avait un désir de vivre au milieu du monde. Ils voulaient y prendre une part active. Lot s'assied à la porte de Sodome, ça veut dire qu'il faisait partie du conseil municipal de Sodome. Il était impliqué dans les affaires de la cité. Souvenons-nous, c'était une ville quasiment exclusivement d'homosexuels. Mais des homosexuels qui avaient une femme, qui avaient des enfants. Je dis, c'est pas possible, si, il y a des homosexuels qui ont une femme et qui ont des enfants. Et qui, à côté, vivent leur passion. Ils y ont pris une part active. Ils se sont installés sans rechercher la présence de Dieu et sans se séparer du monde. Lot, ça le choquait, mais apparemment, il n'en instruisait pas ses enfants. Parce que s'il l'avait fait, ses enfants auraient dit, pourquoi papa, on reste dans la ville si tu trouves que ce n'est pas bien. Donc, il ne dit rien. Alors, les enfants, maintenant, dans tout ça. Bien, Abraham enseigne à Isaac une obéissance totale à l'Éternel. Il lui a enseigné cette obéissance totale longtemps avant le mont Morija. On voit que Isaac avait une bonne éducation spirituelle quand il dit « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham dit « Dieu pourvoira lui-même dans l'agneau. » Ils arrivent là, Isaac lui dit « Mais papa, tu ne m'as pas prévenu, mais attends, mais non, c'est n'importe quoi, tu as dit que Dieu pourvoira lui-même dans l'agneau, alors tu viens de te contredire. » Non, rien. Alors, on peut imaginer ce qu'on veut, mais je trouve que ça a dû être assez paisible. Le texte du sacrifice d'Isaac est un texte paisible, c'est presque surréel. L'enfant se met sur l'autel, le père lit mains et pieds, sur le bois, il met son enfant, il lève le couteau, il dit « mais je rêve ». Alors nous, prédicateurs, on invente, oui, j'imagine Abraham, des larmes qui coulaient le long de ses joues, avec une main tremblante, il lève le méchant couteau, l'enfant le regarde d'un air désespéré, il dit, papa, vas-tu vraiment me tuer? Oh mon fils, je ne veux pas, c'est Dieu qui le demande, pardonne. Non. Alors ça fait de la bonne prédication, c'est très intéressant, mais le texte ne donne rien comme attitude. Ça ne donne pas du tout cette attitude. C'est assez... bon, mais voilà, il faut que tu meurs parce que Dieu demande, voilà, et puis, je ne sais pas s'il a dit, tu vas sûrement ressusciter parce que tu es mon seul espoir pour avoir une nombreuse postérité, mais en tous les cas, d'accord, mais écoute, s'il le faut, il le faut, papa, hein, si Dieu te l'a dit. Ça, c'est une éducation chrétienne, hein. Alors, il accepte cette obéissance sans résistance. Abraham recherche une épouse pieuse pour Isaac. Il dit, maintenant, mon fils, tu as, qu'est-ce qu'il avait? 40 ans. Il est temps que tu te maries, mon fils. Tu me fais vieux, tout ça. Il faut qu'on ait une nombreuse postérité, il faut que ça commence quelque part. Hein? Bon, je vais envoyer le vieux domestique chercher une femme. Qu'est-ce qu'il aurait? Mais il ne voit presque plus, il n'a pas de goût, je ne sais. Laisse-moi chercher moi-même. Isaac laisse son père diriger la recherche par le biais de son serviteur. Isaac ne devait pas prendre une fille païenne du pays et ne devait pas aller en arrière à l'autre, là où il y avait la famille, pour en chercher une. Il fallait qu'il reste sur place et qu'on cherche une femme qui veuille le rejoindre sans l'avoir vue. Est-ce que nous serions d'accord, vous les hommes, à laisser votre parent demander à un ami de la famille de vous chercher un partenaire et dire, voilà, ils sont en train de s'en occuper, je ne doute pas que ce sera la volonté de Dieu pour moi. Alors, cet homme n'était pas si bête que ça, ce domestique. Parce que quand il demande au Seigneur quel type de jeune fille il voulait avoir, vous savez, il a dit, mais quand je lui demanderai à boire, elle me donnera à boire et puis elle donnera mes chameaux. Vous dites, bon, ben ça c'est... Je ne vois pas vraiment ce que ça vient faire avec le caractère d'une jeune fille. Je vais vous dire ce que ça vient faire. Elle a un esprit de service. C'est une femme qui a un esprit de service. Parce qu'elle est prête à lui donner à boire. Elle a un esprit d'initiative, parce que c'est elle qui dit, je suis prêt à abreuver vos chameaux. Donc, elle réfléchit. Les chameaux, c'est lui la soif, les chameaux ont soif. Elle a du respect pour les étrangers et pour les personnes âgées. Ce monsieur est vieux, c'est un étranger, on ne le connaît pas. Elle a du respect immédiatement pour cet homme, elle le traite très correctement. Et elle voit son âge et elle se propose de l'aider. Elle a donc des qualités de cœur et de caractère. Si vous trouvez une femme, messieurs, qui n'ont que ces qualités-là, un esprit de service, un esprit d'initiative, du respect pour les étrangers et pour les personnes âgées, c'est déjà un bon début. Oui? Absolument, absolument. Tout à fait. Elle avait une solide constitution et elle n'avait pas peur de travailler. Ah non, elle était persévérante. Il y a tout un tas de qualités qu'elle fallait qu'elle ait pour faire ce qu'elle a proposé de faire. Absolument. Alors, on voit déjà l'éducation d'Isaac et les qualités qu'on discerne chez Rebecca. On voit déjà que c'est une union faite en Dieu. On a parlé ce matin de trouver le partenaire choisi par Dieu. Il n'y a pas de doute que ce couple a été divinement mis ensemble. Alors, les enfants de Lot n'ont reçu aucune éducation pieuse. Les deux filles aînées épousent les hommes de la région de Sodome. Alors, je n'aime pas à y penser, mais est-ce qu'ils étaient comme tous les autres hommes de Sodome? Je pensais que oui. Qu'est-ce que vous penseriez si votre fille épousait un homosexuel? Tu dis, il est avec elle, après il est avec les copains par là-bas, et puis il revient. Non, mais... Les deux dernières filles qui n'étaient pas mariées, et elles ont commis l'inceste avec leur père après l'avoir enivré, ce n'étaient pas non plus des enfants de cœur, ces filles. C'est des filles qui étaient vierges quand même, elles n'avaient jamais connu d'homme. Mais au lieu de dire, papa, est-ce que dans quelques années, on pourrait descendre dans le village, peut-être trouver un mari comme ça, tu pourrais avoir des petits-enfants. De suite, quand ils sont dans la caverne avec leur père, elles pensent, tiens, notre père n'a pas d'enfants, bon, c'est bien, notre père n'a pas de petits-enfants, notre héritage ne pourra pas se prolonger, on va l'enivrer. Ce qui n'est pas très honnête. Elles sont totalement dirigées par les pensées et les coutumes du monde. C'est des filles totalement mondaines. Alors, quelle est la différence entre ces deux familles? La différence est dans l'attitude et la relation des parents avec Dieu. Abraham et Sarah avaient une relation avec Dieu que n'avaient pas Lot et sa femme. Lot adorait le même Dieu, mais il n'avait pas de relation avec Dieu comme avait Abraham. Non seulement ça, mais Abraham et Sarah montraient un exemple, ils montraient un exemple d'intimité avec Dieu devant Isaac. Lot et sa femme n'ont jamais montré un exemple de piété devant leurs enfants. Et évidemment, Abraham et Sarah ont enseigné Isaac, et on peut penser que Lot et sa femme n'ont pas enseigné leurs enfants. Lot, il avait une certaine piété, mais il a gardé pour lui. Ce n'est pas quelqu'un qui enseignait. C'est quelqu'un qui peut-être était assez secret. Il gardait ses enfants, ses pensées pour lui-même. Il n'était pas communicatif, du moins pas sur ce plan-là. C'est incroyable, mais combien d'hommes, même des pasteurs que je suis, quand il s'agit de parler du Seigneur avec le nouveau venu, avec quelqu'un de l'Église, règle les problèmes, on en a pour des heures et des heures. C'est le travail, hein, c'est mon métier, je suis payé pour ça. C'est mon appel. On va pouvoir faire des études bibliques à longueur de semaine. Et on n'a pas une demi-heure, on n'a pas 20 minutes, on n'a pas un quart d'heure avec son enfant ou ses enfants par jour pour leur parler aussi simplement du Seigneur, même à 2, 3, 4 ans. Il n'y a pas de doute que Lot avait une certaine piété, mais il ne la partageait pas. Il ne semble pas qu'il... Alors que Deutéronome dit, vous en parlerez avec vos enfants en tout moment de la journée, à n'importe quelle occasion. Vous retournez les pensées vers Dieu. Isaac avait une totale confiance dans son père. Totale confiance dans son père. Et sa femme avait une totale confiance dans le Dieu de son mari. Les enfants de Lot n'avaient aucune confiance en lui. Il n'avait jamais montré sa piété. Il en avait, la Bible le dit, mais il ne l'a jamais vraiment montré. Il n'avait pas de crédibilité, tout simplement. Quand il a dit au gendre, vous savez, Dieu va détruire cette ville, il parut plaisanter. Allez, raconte-nous une autre bonne blague, tant que tu es là, vieux Lot. Tiens. Non, mais attends, mais feu du ciel, c'est ça. Rigolons un peu, tiens, je vais aller voir les copains et puis je vais leur raconter ta nouvelle blague, c'est pas mal, fera le tour de Sodome. Non, mais attends, mais. Il dit n'importe quoi, vieux. Vous imaginez, ce n'était pas détendre les jambes de Lot. Hein? Et lui, était, cette fois, il était vraiment sérieux. Mais, on ne pouvait pas le croire. Et ces deux filles l'ont méprisé. Au lieu d'exposer leurs intentions par rapport, qu'est-ce que tu proposes, papa, pour qu'on puisse avoir des enfants, nous aussi, et prolonger ton héritage? Non, on va l'enivrer. Il ne saura même pas ce qui se passe. Comme ça, on va se mettre enceinte de lui. Vous parlez d'un mépris pour leur propre père. Lorsque la femme et les enfants ne voient pas dans la vie, dans les actes, dans les paroles d'un homme, une vraie relation avec Dieu, c'est-à-dire quand ils ne voient pas dans la vie de leur père ou de leur mari obéissance, adoration, témoignage, foi, humilité, eh bien, la famille n'adopte pas son Dieu pour le leur. J'ai un ami qui est dans l'éducation chrétienne, il fonde des écoles chrétiennes. Il a passé 15 ans en France, maintenant il est en Afrique du Sud, où il fonde plusieurs écoles chrétiennes. Et quand il a fait son doctorat en éducation chrétienne aux États-Unis, il a fait un vaste... donc, survol, interview, sondage, auprès de centaines de familles chrétiennes et de centaines d'écoles chrétiennes. Il a demandé aux responsables des écoles chrétiennes aux États-Unis, des écoles chrétiennes, baptistes, indépendantes, fondamentalistes, hein, attention, de bonnes écoles chrétiennes, de bonnes églises, de bons pasteurs. Il leur a demandé de lui dresser un peu l'image de ceux qui étaient devenus les enfants en quittant les écoles chrétiennes. Et voici les résultats de ce survol. Il en a fait donc une thèse doctorale. Il y a trois types d'enfants qui fréquentent les écoles chrétiennes. Il y a les enfants de parents inconvertis qui papa et maman, vraiment, je sais que vous n'y croyez pas, mais moi je veux aller, moi je crois en Jésus, tout ça. J'aimerais aller dans cette école chrétienne, j'aimerais entendre la parole, je suis prêt à travailler pour aller à payer les études. Est-ce que vous permettez que j'y aille? Bon, les parents disent, bon, mais si tu veux à ce prix, vas-y, quoi. Alors, les parents aident ou n'aident pas, mais l'enfant, il paye une partie de ses études et il est là par conviction. Ces enfants-là, dans la grande majorité, tournent très bien. Deuxième groupe, des enfants de chrétiens convaincus, où le papa conduit régulièrement la famille dans un temps, dans la parole. Les parents, les enfants parlent très librement entre eux. Les enfants vont facilement vers leur père pour leur parler de leurs problèmes, demander conseil, etc., etc., etc. Ces enfants, grande majorité, tournent très bien. Il a dit, il y a un très grand nombre d'enfants qui, dès qu'ils quittent l'école chrétienne, commencent à vivre comme de véritables païens, parce qu'il n'y a plus de règles. Dans une école chrétienne sérieuse aux États-Unis, il y a une règle vestimentaire. On ne s'habille pas n'importe comment. Une règle pour la coupe des cheveux. On n'a pas des cheveux traînant sur le cou, etc., sur les épaules. Il y a des règles. À tout point de vue, il y a des règles. Et donc, les gosses obéissent aux règles. Dès qu'ils ont leur diplôme, et un grand nombre, les cheveux descendent comme ça, changent de vestimentaire, ils vont dans les bars, font n'importe quoi. Et tous les gens de l'église sont choqués de voir ces gosses qui, pendant 18 ans, marchaient sur les chemins étroits et droits, et maintenant se conduisent comme de véritables païens. Et alors, il a dit, les parents de ces enfants-là sont des gens qui sont à l'église dimanche matin, dimanche soir et mercredi soir. Trois fois par semaine, les parents sont là. Souvent, le papa est diacre. Souvent, ils ont un bon boulot, les deux travaillent, ils ont un bon salaire, ils paient l'école chrétienne, et tout, et tout, et tout. Mais, la famille ne mange presque jamais ensemble. Il n'y a pratiquement pas de relation interpersonnelle entre les parents et les enfants. L'enfant, et j'ai rencontré certains de ces enfants qui sont venus à notre camp en pleine rébellion, de très bonnes églises. Une fille m'a dit, ça fait 3 mois, je crois, qu'on n'a pas mangé ensemble. Une seule fois en tant que famille, assis à la même table. Quand dimanche arrive, midi, maman est tellement fatiguée qu'on va tous au restaurant. Bon. Mais manger chez nous, un repas que faisait maman, avec prière et tout, ça ne se fait pas. Un garçon m'a dit, de toute façon, quand je rentre chez moi, il y a une note, tu as les hot dogs dans le frigo, tu as les petits pains là, tu les mets dans le micro-ondes, un peu de moutarde, et tu peux aller bosser. Voilà. Bon, alors le gosse, il arrive, et chacun arrive et fait son truc, il s'en va. Donc, il n'y a pas de vie de famille. Et donc, il n'y a aucune interaction entre les parents et les enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils comprennent? C'est simple. Ils comprennent, pour mes parents, ce qui est important, ce sont les apparences. Je suis à l'église dimanche matin, dimanche soir et mercredi soir. On l'attend de moi, c'est là où je suis. Le restant de la semaine, je travaille, je gagne ma vie, je paye les études à l'école chrétienne pour mon enfant. Et maintenant, c'est au pasteur d'en faire un bon chrétien. Et ça ne marche pas. Un pasteur ne peut pas faire des enfants de l'école chrétienne de bons chrétiens. Il n'y a que les parents qui peuvent le faire. Et ils ne peuvent le faire qu'à travers leur exemple. Et alors, il y a des dizaines de milliers de jeunes anciennement des églises baptistes indépendantes et fondamentalistes qui sont de purs païens et qui ne veulent pas entendre parler de l'hypocrisie des églises et de leurs parents. Où est le problème? C'est que dans la maison, dans le foyer, il n'y avait pas de vie de famille. Les parents ont délaissé l'éducation de leurs enfants. Ils n'ont jamais montré un exemple. Ils sont comme Lot. Ils avaient une vraie piété et beaucoup de ces hommes lisent la Bible et prient tous les matins pour leur culte personnel, mais ils ne prennent pas le temps de parler à leurs enfants, de leur communiquer ça. Et donc, ils n'exercent aucune influence. Alors, les gosses, qu'est-ce qu'ils disent? Aller à l'église 3 fois par semaine pour faire bien, pour finir comme mes parents qui sont de toute façon matérialistes à fond la caisse. Je préfère m'économiser le temps et être matérialiste sans avoir la religion. Je ne vois pas ce que la religion baptiste apporte à mes parents, vraiment, sauf qu'ils sont bien considérés par leurs collègues à l'église. Mais moi, je n'en ai que faire de ces hypocrites-là. Moi, je vais vivre ma vie. Je ne vois pas ce que ça n'a rien changé chez eux. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais en fait, ils n'en parlent jamais avec moi. Donc, et ils ont quelque part, ils ont raison. Et ça, je dirais que ça, c'est la grande, grande responsabilité. C'est ce que nous sommes, et ce que nous vivons et faisons avec nos enfants. Alors, je vais terminer avec simplement cette remarque, parce qu'on est dans une école biblique. C'est intéressant de voir des enfants de pasteurs. Je connais des enfants de pasteurs dont les parents ont eu un ministère assez difficile. Et ces enfants sont pleins de zèle et veulent servir aussi le Seigneur à leur tour, aussi devenir pasteurs. Et je connais d'autres pasteurs qui croient la même doctrine que les premiers, hein, qui font un travail qui semble être aussi bon que les autres, qui sont aussi dévoués, hein, eh bien, leurs enfants ne veulent rien savoir du ministère. Et vous dites, mais quelle est la différence? Je ne vois pas, il n'y a pas de différence doctrinale, je ne vois pas la différence entre ces deux hommes. Je vais vous dire la différence. La différence, c'est quand le papa rentre à la maison, et il raconte peut-être des problèmes de l'Église, où les enfants sentent qu'il y a des problèmes. Comment le pasteur et sa femme réagissent? Alors, il y a le discours genre, de toute façon, ces gens à l'Église, ils n'apprécient pas ce qu'on fait. De toute façon, pour le salaire qu'on gagne, vraiment, c'est ras des pâquerettes, on n'arrive même pas à vivre avec ça. Bon, Dieu nous a appelés, il faut continuer, hein. Mais voyez les enfants, c'est dur, hein. On aimerait bien vous acheter des choses, mais on ne peut pas parce que l'Église ne nous donne pas ce qu'elle devrait nous donner. Je vous parle vrai, hein. Les diacres, ils ne voient pas qu'on crève de faim, presque, enfin, on ne crève pas de faim, mais bon, j'aimerais bien vous acheter des marques aussi, comme tous les camarades d'école, mais comment voulez-vous, avec un salaire de misère comme on en a? Les parents ne se rendent pas du tout compte que l'effet qu'ils font sur leurs enfants. Les parents disent, oui, bon, mais on aime le Seigneur, on va continuer. Eux, ils se font une raison. Mais les enfants disent, ah, mais moi pas, hein. Vivre comme ça, j'ai entendu assez souvent mes parents se plaindre parce qu'ils prennent vraiment au sérieux ce que disent leurs parents. Et, etc. Un tel, je ne le supporte pas, il faut se le faire avec, etc. L'amertume, et tout, et tout, et tout, et tout. Les enfants sont là, ils entendent ça, ou ils le voient, ils sont mal à l'aise. Ils disent, mais vraiment, servir Jésus, ça n'a pas l'air de... C'est pas très exaltant. Alors, on peut avoir les mêmes problèmes. Pas beaucoup d'argent. Les parents rentrent, on n'a pas beaucoup d'argent, mais vous savez, les enfants, Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. Vous le saviez, ça? Tu aimerais avoir telle ou telle chose? Tu sais, papa n'a pas d'argent pour l'acheter, mais est-ce que tu crois que Dieu voudrait te le donner? Si tu veux, on va prier Dieu qui te le donne. Comme ça, tu verras Dieu à l'œuvre. Alors, l'enfant, c'est pas mieux, il prie. Et puis, Dieu ne sait pas mieux non plus, il lui donne. Puis l'enfant, il est content, et il est content, il voit que Dieu a répondu à sa prière. Il commence à prier pour des tas de choses. Et souvent, Dieu répond. Et alors, il développe ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont aussi pauvres que les premiers, mais ils disent, cette difficulté que nous traversons, ça c'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre et qu'est-ce que nous pouvons enseigner à nos enfants? Et alors, au lieu de se plaindre, ils le prennent positivement et ces difficultés font qu'ils développent leur relation avec le Seigneur et les enfants développent leur relation avec le Seigneur. La différence, c'est quoi? Le premier pasteur, il dit, finalement, Dieu n'est pas souverain, je ne devrais pas avoir ces problèmes et c'est le diable qui les a amenés dans ma vie. C'est la faute du diable. Mais le diable ne peut rien faire sans que Dieu ne lui permette. C'est ça le problème. Deuxième pasteur dit, le diable est peut-être derrière tout ça, mais Dieu le permet et il veut nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Et quand les parents montrent ce qu'ils apprennent du Seigneur à travers les circonstances, et les enfants apprennent, les enfants comprennent, Dieu est un Dieu souverain, et ce qui m'arrivera, c'est Dieu qui le permettra pour mon bien et pour sa gloire. Et pour lui, la vie chrétienne devient vraiment une aventure. Dieu devient personnel pour lui. Tandis que pour les autres enfants, Dieu est dépassé par les événements, et le diable semble mener le tout par la queue, et je ne vois pas pourquoi je servirai un Dieu qui ne peut rien faire. C'est cette attitude vis-à-vis de nos épreuves qui peut devenir un moyen d'être un exemple et un enseignement pour nos enfants, ou qui peuvent simplement dégénérer en plainte et devenir quelque chose qui refroidira nos enfants à l'égard de Dieu. Alors, nos enfants disent, oui, mon père et ma mère, pauvres, ils n'ont pas le choix. Dieu les a appelés, alors c'est vrai qu'ils souffrent beaucoup, mais bon, tant pis pour eux. Hein, moi, je suis content que Dieu ne m'appelle pas, puis je ne tiens pas à ce qu'il m'appelle. Je ne sais pas pourquoi mes parents y restent, parce qu'avec tout ce qui se plaignent, vraiment, moi, à leur place, je me sortirai là, je ferai autre chose. C'est cette attitude fondamentale, finalement, par rapport aux difficultés de la vie, qui fait que les enfants sont motivés pour aimer Dieu et que ou les enfants sont totalement démotivés par rapport à Dieu. Parce que c'est quelle est l'image de Dieu que nous projetons à nos enfants quand nous traversons des difficultés. Et chez Abraham et Sarah, c'est ce qui a vraiment différencié avec Lot et sa femme. Et le résultat n'était pas le même. Alors, notre temps est presque terminé. Est-ce que vous avez des questions? C'est un sujet assez riche. Oui, Cathy? Saphira a commis son propre péché. Je ne sais pas si je sais l'expliquer. Je ne sais pas la réponse moi-même. Hein. Il faut dire que Abraham et Sarah étaient demi-frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils avaient le même père, mais pas la même mère. Donc, ce n'était pas totalement mensonge, premièrement. Et pour le reste, Dieu a protégé Sarah. Il y a vraiment, je pense que beaucoup est dans l'attitude. Si un mari demande à sa femme d'aller se prostituer pour gagner de l'argent, elle va dire non. Ça, ce n'est pas du tout aussi évident dans le cas d'Abraham et Sarah. Mais là où on pourrait avoir deux points de vue divergents et que l'un doit décider, la femme doit dire, bon, moi je ne le ferai pas comme ça, mais si tu penses qu'il faut faire comme ça, et quelle est ta raison, etc., écoute, je vais faire ce que tu me demandes. J'ai confiance que Dieu va nous garder. Je dois obéir. Ça, je n'ai pas d'autres ordres de la part de Dieu. Quand un homme voit que sa femme lui obéit, il commence à avoir peur. Ah oui. Oui. Quand un homme voit que sa femme ne lui obéit pas, mais non, mais je ne veux pas le faire, mais non, mais qu'est-ce que tu penses? Il dit, bon, de toute façon, je peux dire n'importe quoi. Elle va réfléchir. Si elle veut le faire, elle va le faire. Si elle ne veut pas le faire, elle ne va pas le faire. Je n'ai même pas besoin de demander à Dieu. Je peux dire n'importe quoi et on verra si elle veut le faire ou pas. Mais quand il dit, oh là là, mais si je dis ça, elle va le faire en plus. J'ai intérêt à bien savoir ce que je vous dis. L'homme a quelquefois presque besoin d'être poussé dans cette position de leader parce que de lui-même, il ne veut pas mener. L'homme n'aspire pas généralement à mener. Oh oui, des trucs où il peut se valoriser, oui, mais dans ces questions de famille, comment dire? Un homme vit essentiellement pour la valorisation que peut lui donner son travail, sa carrière. C'est comme ça. C'est pas un tort, c'est pas un péché, c'est ainsi qu'il est fait. La Bible dit, l'homme sort le matin, il va à son ouvrage, il rentre le soir. Un homme qui ne peut pas travailler, qui n'en a pas les moyens ou la santé, c'est difficile pour lui. Mon beau-père, à 42 ans, il a eu la diphtérie très petit, il a failli mourir, il avait un problème de cœur cardiaque. À 42 ans, il a dû arrêter son travail. Mais il a mis 3 ou 4 ans pour se faire à. Et il s'est senti diminué parce qu'il est arrivé à une étape, il a commencé monteur téléphone, il est arrivé sous-chef d'agence. Alors, pour lui, c'était inespéré, il était tellement heureux d'avoir ce boulot, et puis il aimait ce travail, et puis il était vraiment consciencieux et toujours à l'heure, et de couper comme ça, c'était très difficile pour lui. Il avait l'impression d'être mort, jusqu'à ce qu'il découvre d'autres choses. Donc, un homme est extrêmement poussé dans cette direction-là. Mais par rapport à sa famille, un homme, beaucoup d'entre nous, disons, on a tendance, bon, la famille, c'est facile, et la femme qui s'occupe des enfants, bon, c'est pas vraiment très important. Enfin, bon, voilà, je rentre, je suis chez moi, j'ai pas de responsabilité particulière. J'ai ramené l'argent à la maison, ma femme a de quoi nourrir, moi, voilà, j'ai fait mon travail, c'est bon, maintenant je me repose le soir. L'homme a tendance à penser comme ça, nous tous. Et quand il dit, ah là là, en plus je suis responsable pour la famille, en plus pour la famille spirituelle, j'ai pas vraiment envie. Et pourtant, c'est lui. Alors quelquefois, la femme, elle a envie, elle. Mais moi, je le ferai si tu veux. Moi, je le ferai avec les enfants. Alors, attention, le gars. Oh, mais c'est super, tu me soulages. Ah, oh, ben oui, moi je veux le faire. Alors elle, sans, tiens, je suis chef, moi. Prends les enfants autour de moi, fais le culte, on prie. Hein. Puis elle sort et elle pense que son mari va dire, c'est merveilleux ce que tu as fait. Il va rien dire du tout. Elle s'est occupée, ça s'est bien passé. Ah, oh, oui, tu veux savoir ce que je leur raconte? Non, ça va, ça s'est bien passé. Oui, ben c'est bon. Elle dit, mince alors. Oui, mais finalement, je ne suis pas le chef de quoi que ce soit, il m'a abandonné. Et je me sens seul avec cette histoire. Et donc, ce n'est pas une solution, finalement. C'est que l'homme accepte de jouer ce rôle. Et c'est une école de sanctification. Mais il faut leur dire d'abord, je ne vous appelle pas pour l'Institut. Premièrement, mettons ça au point tout de suite. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de simplement vivre la vie chrétienne. On doit être disciple. On doit être disciple. Tout le monde doit être disciple. Et Jésus a dit, enseignez-leur à, non pas ce que je vous ai prescrit, mais à observer ce que je vous ai prescrit. Dans quelle mesure est-ce que tu es en train d'observer ceci, cela et l'autre? Je ne peux pas répondre pour toi, toi, tu es le seul qui peut répondre, mais je te pose la question, réfléchis. Et c'est vrai que souvent les gens disent, oui, mais ça vous concerne, vous êtes consacré parce que vous devez être à plein temps. Mais qu'est-ce que c'est que comme pasteur? Ce n'est pas un super chrétien. Et là, on a un travail à faire. Hein? Un pasteur, il a autant de faiblesses que les autres. Il n'est pas un chrétien plus spirituel que les autres. Quelquefois, il y a des gens dans l'Église qui semblent être vraiment plus spirituels que le pasteur. Donc, ce n'est pas là-dessus que le pasteurat se joue. Quel est donc ce travail? C'est un travail d'enseigner, de former et de déployer les gens dans le service de Jésus-Christ. C'est un recruteur. Et il pense en termes de comment pourrais-je former les gens dans cette Église et les déployer dans le service, dans l'Église et hors de l'Église. C'est ça son travail. Alors, s'il fait ce travail-là, et je parle devant un pasteur, et je ne suis pas un modèle, hein, je parle de ce que dit la Bible. Le pasteur docteur enseigne les saints pour l'œuvre du ministère. Ce sont les chrétiens qui font l'œuvre du ministère. Alors, il peut avoir plusieurs compétences. Il faut qu'il ait la compétence d'enseigner, ça c'est sûr. Il faut qu'il ait le don d'exhorter. Il faut qu'il développe des choses comme ça. Mais il faut surtout qu'il ait une vision claire de là où il veut essayer d'amener les gens. Il n'y arrivera pas toujours, mais il faut avoir une perspective. Et après, s'il s'entend bien pour la cure d'âme, tant mieux, tant mieux. Mais dans l'Église, il y a des gens qui peuvent faire ça. Et l'idée, c'est de multiplier le nombre de personnes qui servent le Seigneur dans l'Église. Alors, quand il y a des gens à l'hôpital ou des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin de beaucoup de temps, le pasteur générique, il court d'hôpital en hôpital, passer au chevet de chacun, 10 minutes, 15 minutes, il est crevé à la fin, il a fait 30 visites, et on lui fait un coup de fil parce qu'il en a fait la 31e, que l'on l'attendait, c'est pas un bon pasteur. Et vous avez donc 60 personnes dans le stade, puis vous avez un joueur qui joue dans le stade tout seul, il joue les deux équipes, il tape les ballons dans les deux directions, il se rencontre en venant et en arrivant, et évidemment il n'est pas bon, évidemment il n'est pas parfait parce qu'il fait le travail de toute l'Église. Alors les chrétiens disent, mais moi je veux que le pasteur vienne me voir. Je suis malade, j'ai quand même le droit à ce que le pasteur lui-même se déplace en personne pour me voir. Tant qu'on est 20, ça va. Mais il faut penser si on veut grandir. Et si on veut grandir, il faut voir qui est-ce qui a le don de miséricorde. Qui est-ce qui a le don de pouvoir s'asseoir et écouter quelqu'un dans ses jérémiades, dans ses plaintes. Et mon opération, vous savez, il y a 5 ans, qui est-ce qui va écouter une demi-heure de ça? Il y a des gens qui sont tout à fait disposés à le faire. Ce sont des gens qui ont un don de miséricorde. Ils ont une patience. À tout rompre, c'est incroyable. Et ils ont vraiment ce don. Il faut trouver ces gens-là et dire, écoutez, il y a un travail que vous devez faire, vous devez m'aider. Et puis, il faut expliquer aux gens malades, je ne pourrai pas venir cette semaine, mais je vous envoie une de nos sœurs qui a été formée spécialement pour ça. Vous allez voir, vous allez avoir un merveilleux moment avec elle. Je vous la recommande. Et expliquer aux gens, vous ne pouvez pas toujours avoir le pasteur, ce n'est même pas souhaitable qu'on l'ait toujours. Alors, est-ce que vous préférez avoir le pasteur une fois toutes les 3 semaines, uniquement? Ou est-ce que vous préférez avoir 9 personnes dans l'Église qui vous rendent visite, une personne tous les 2 jours? C'est à vous de voir. Comprenez ce que je veux dire? Et ça, un peu dans tous les domaines de la vie. Et donc, la formation doctrinale, formation pour faire ce travail, et déployer la personne, et suivre, ça se passe bien, etc., etc. Et quelquefois, dans une Église, on trouve 3, 4, 5 personnes qui non seulement sont formés, mais qui savent en former d'autres. Ce n'est pas la majorité, c'est une petite minorité. Des gens qui savent en former d'autres. Et alors, on les forme aussi pour en former d'autres. Alors, moi, je sais que j'ai passé 20 ans, le pasteur générique, hein, je courais dans tous les sens, et j'avais régulièrement des coups de fil, comme quoi, j'avais oublié un tel, et puis voilà, tu ne fais pas ton boulot, et puis, c'est impossible. Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. Dieu nous a appelés à former les chrétiens pour faire l'œuvre du ministère. Jésus, il aurait pu faire une super bonne église avec 25 ou 30 ou 40 000 personnes, à coup de 3 ou 4 miracles par sermon, ça grandissait de 1 500 ou 2 000. Il aurait pu faire un énorme truc et avoir les 12 apôtres comme agents d'accueil. Mais imaginez le ministère qu'il aurait pu bâtir sur la mer de Galilée à côté là. Il aurait pu faire un truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé presque tout son temps avec 12 hommes. On dit quel gaspillage! Et quelquefois, il y avait toute la foule qui voulait encore entendre et il faisait semblant de bon, j'ai fini de vous parler, maintenant je parle avec les 12. Mince! Mais vous avez 5000 personnes, parlez à ces gens! Non, il devait former les 12, parce que les 12 allaient en former d'autres et le christianisme allait. Et donc, Jésus n'a jamais perdu de vue sa mission, en fait, qui était de former quelques-uns qui, eux, à leur tour, en formeraient d'autres. Alors, on le fait très, très bien pour l'Institut. Je suis un ancien de l'Institut. Je peux vous dire, comme je l'ai dit ce matin, on est vraiment au point pour la formation. Dès qu'un jeune lève un doigt timide, je pense que Dieu m'appelle, la machine se met en marche, tu viens à l'Institut, on l'installe, on court, stage, truc, tu fais ça, tu fais ci, voilà, au bout de 4 ans, voilà, un peu plus, et tac, formidable, formidable. Mais le travail qui va bâtir les églises, c'est le travail donc de ce pasteur qui va devoir faire ça avec les autres. Comme si c'était un institut, mais pas besoin de faire des cours magistraux, hein. Ça peut être des petits groupes où on favorise le dialogue. Et où chacun... J'ai été avec un pasteur en Floride, un pasteur qui nous soutient. Et j'étais avec lui à sa réunion de staff. Ils ont 8 pasteurs dans cette église. Ils sont 900. Et il a dit, voilà, écoutez les gars, on a un gros problème dans l'église. Moi, je ne trouvais pas qu'il y avait un problème dans l'église. Ça avait l'air super bien. Il a dit, il y a des gens qui s'avancent à l'appel. Ils s'avancent à l'appel. On met le bras autour d'eux. On prie avec eux. Ils s'en vont à leur chaise. La réunion s'achève. Et après, quoi? Ils sont venus pour quelque chose. Est-ce que nous savons pourquoi ils sont venus? Est-ce que quelqu'un l'a noté? Je veux reconsacrer ma vie à Dieu. Ça veut dire quoi, reconsacrer sa vie à Dieu, en termes spécifiques? Ça devrait vouloir dire, je veux servir Dieu. Mais où est-ce que je vais le servir? Évidemment, dans l'église locale. Bon, au lieu de dire, oh, on a eu 75 personnes qui se sont avancées, c'était comme un réveil. Il a dit, on devrait prendre ces gens-là, justement, et dire, suite à votre réponse à l'appel la semaine dernière, et votre désir de vous consacrer à Christ, nous vous proposons un petit groupe de croissance, un groupe de formation. On a tel ou tel besoin dans l'église. On vous invite à découvrir votre don spirituel, à suivre un peu de cours, etc. Et on, on va... Et donc, un des pasteurs, un des adjoints était choisi pour mettre tout ça. Et c'était, ça allait être son travail. On l'a déchargé des autres boulots. Et il allait mettre au point un système de formation pour tous ces gens qui s'avançaient. Et au moins, ces gens qui manifestent publiquement, qui veulent faire un pas de plus, eh bien, il ne faut pas simplement dire « c'était bien ». Il faut trouver un système pour leur permettre de mettre en pratique, de les former puisqu'ils ont le désir. Et puis de les déployer dans un ministère qui aura de la signification pour eux. C'est la meilleure manière de les fidéliser, déjà. Un chrétien, normalement, il veut servir le Seigneur. Alors, il faut le former, le déployer, l'encourager, le suivre, le surveiller, bien entendu, il faut le surveiller. Mais... Donc, ça, c'est le vrai travail du pasteur. Alors, il le fait surtout par la prédication publique, bien sûr, parce que là, on apprend des tas de choses, la doctrine et tout ça, les attitudes, et après, par un travail de formation. Ça peut prendre toutes sortes de formes différentes. Oui? Oui. 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 Oui, bien sûr. Oui, non, mais ça n'empêche pas que le pasteur va privilégier le temps avec les gens. Et il peut aller visiter tous les gens de l'Église. Peut-être devrait-il même. Moi, j'ai essayé sans toujours réussir. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein. Mais un jour, Média, comme on dit, ça fait 5 ans que tu n'es pas venu chez moi. Je dis, tu ne m'invites pas non plus. Hein? Il a dit, oui, mais quand même. J'ai dit, d'accord. Et un autre diacre m'a dit, est-ce que tu as un planning de visite? Je dis, pas vraiment. Je parlais aux plus urgents. Bon, mais ça m'a fait réfléchir. C'était bien qu'ils me disent ça. Et j'ai essayé de faire un planning de visite, etc., d'être sûr que je voyais tout le monde une fois par an. À 70 personnes, ce n'est pas trop difficile. Un autre m'a dit, écoute, 2 visites par semaine, tu as largement fait le tour en une année. Je dis, oui, ça mérite. Mais pas des visites, bon, donc j'ai remarqué un problème dans votre vie. Parce que déjà, quand le pasteur arrive à la porte, les gens, déjà, c'est un peu comme le gendarme. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il se déplace, donc il y a un problème, il va me faire ma fête. Et ça dégénère un peu en théologie pastorale maintenant. Mais quand on fait des visites d'entretien, c'est un peu comme la voiture, une visite d'entretien, il n'y aura jamais rien de très grave. Mais si on ne fait pas ces visites d'entretien, ça peut devenir très grave et après, on a beaucoup de difficultés à rétablir. Alors, c'est pas toujours facile, mais de connaître. Bien connaître et avoir des discussions à bâton rompu. C'est une occasion pour le pasteur de partager sa vision de l'Église avec les membres, comme ça, de répondre à leurs questions. Invariablement, faisant des visites, c'est incroyable. On s'assied et au bout d'une heure, au fait, j'avais une question à vous poser. Ça me brûle les lèvres depuis au moins 6 mois. Ah bon? Ah oui, c'est une question très importante. Mais je cherche l'occasion pour mettre le culte, il y a toujours tout le monde, c'est personnel, ça. Et voilà. Et là, vous êtes heureux que vous avez rendu cette visite, parce que cette question sort, vous répondez, la personne, ça fait sa semaine. Hein? Donc, tout ce travail est essentiel. C'est un travail essentiel. Mais, ça c'est fait que tout le monde aille bien. C'est un but. Si tout le monde va bien, c'est bien pour l'Église. Mais si tout le monde va bien, ça ne veut pas dire que plusieurs sont au service. Alors, ceux qui sont déjà au service, il faut savoir les accompagner et les encourager. Ceux qui ne sont pas encore au service, chercher où ils pourraient l'être. Les mettre peut-être avec quelqu'un qui s'entend bien dans ce domaine. Et laisser aussi les membres se former les uns les autres. Mais on fait, c'est tout un travail de liaison. Je te présente une telle, elle a 5 ans d'expérience dans ce domaine. Est-ce que tu veux raconter ce que tu fais, comment? Et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide. Est-ce que ça t'intéresse? Et, oui, oui, oui. Et puis, on fait la jonction et on revient dans quelques temps. Comment ça se passe avec une telle? Oui, ben elle apprend vite. Puis on voit la nouvelle et avec votre collègue, elle vous enseigne. Mais oui, oui, ça va bien. Ah, mais c'est formidable. Mais allez voir comment ça se passe, que les gens ne se sentent pas abandonnés. C'est tout un travail un peu d'administration, finalement. Mais quand plusieurs dizaines de personnes sont en train de servir le Seigneur, sous une forme ou sous une autre, on a vraiment envie de lire la Bible et de prier. Parce que moi, je sais que quelquefois, je ne lirai pas la Bible, mais je la lis parce qu'il faut que je prêche. C'est honteux de dire une chose pareille. Où je vais avoir un entretien, j'ai intérêt à être correct avec Dieu. Et c'est pareil pour les chrétiens. Quand ils savent qu'ils sont responsables de servir Christ et ils savent exactement ce qu'ils sont appelés à faire, ils vont avoir tendance eux-mêmes à se nourrir parce qu'il faut qu'ils donnent derrière. Ouais. Eh bien, notre temps est terminé. Grand merci.